Merci, Dom.
Hey, une deux affaires. Ben ça va intéresser Marc d'ailleurs. Pour la première fois en 8 ans, les hôpitaux de la région de Montréal ont un déficit plus élevé que prévu. Parce qu'écoute, ça allait déjà bien. Ils espéraient un déficit de 43,1 millions. Ça, c'était leur but à la fin de l'année, un déficit de 43. Ouais. Mais finalement, ils ont 17,2 millions de plus de déficit.
Ah, c'est des pinottes.
Un déficit autorisé dans le public, c'est une faillite dans le privé.
Ben oui.
Pas compliqué.
C'est carrément pareil. Hein? Hey, ouais. Là, ça va bien. Nos dépenses sont sous contrôle. On va juste faire un déficit de 47 millions.
Ouais, on est habitué de fonctionner comme ça. C'est dans les mentalités de gérer à déficit, de gérer à perte.
La patente Toyota, là, on avait déjà parlé. Là, ça a l'air que c'est la nouvelle réincarnation de Jésus-Christ.
Disons que ça reste à voir.
Il y a des sceptiques en studio.
Permets-moi d'en douter.
Oui, hein?
Oui.
Les solutions magiques, n'est pas bien bien, là.
Non, écoute, la méthode avec laquelle on dirige le système de santé au Québec, là, c'est un foutoir total. Écoute, ce qui va bien, on le ferme. Écoute, il y a quelques semaines, on a annoncé que le contrat avec Rockland MD, là, qui a opéré à peu près 8000 patients à l'espace de 3-4 ans, on mettait fin à l'entente avec cette clinique privée-là qui allait super bien à côté de l'hôpital Sacré-Cœur. Alors, ça va trop bien, on coupe le contrat. Et le prétexte était, à ce moment-là, que ça coûtait supposément 200 $ de plus à opérer à Rockland MD que dans le réseau public. J'en doute beaucoup. Et si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'on n'offre pas aux gens de donner le petit 200 $ pour obtenir leur chirurgie rapidement plutôt que d'attendre 1 à 2 ans?
Ben oui.
Les gens seraient prêts à ça. Les gens le sont. Chez nous, les gens paient. Ils ont du service rapide, ils ont du temps, ils ont de la qualité. Alors, les gens sont rendus là. Écoutez, à Québec, le marché est en feu. On est rendu à 5 points de service. On vient de signer des partenariats avec 2 cliniques, dont une de Terrebonne, une de Bromont. On ouvre du côté de Saguenay à l'été 2012, officiellement. Alors, si les gens sont pas prêts à ça, je me demande, là, je me demande quoi penser.
J'ai vu ce matin que le Danemark, ça sent à gauche, le Danemark?
Oui, ben écoute, c'est la social-démocratie d'Europe, ça. Avec la Suède, la Norvège,
mur
la
mur,
Finlande.
Mur à mur.
Exact.
Mais là, eux autres, ils ont les 2 mains dans le privé en santé, là. Il n'y en a pas d'attente.
Écoute, il n'y a pas un pays d'Europe actuellement qui n'est pas mixte au niveau de son système de santé. J'ai donné souvent l'exemple de la Norvège. Je ne sais pas si vous en avez parlé déjà de cet exemple-là, les gars.
Oui. Mais redonne-le pareil.
Ben écoute, dans les années 90, début des années 90, ils vivaient exactement ce que le Québec vit au niveau de la performance des soins de santé, l'attente qui explosait, les coûts qui explosaient. Et c'est un monopole étatique en santé. Donc, les seuls fournisseurs de soins de santé en Suède, c'était l'État. Donc, tu n'avais rien de privé. Eux, ils ont fait le pari qu'en mettant un petit peu de compétition là-dedans, en donnant une part du marché au privé, que ça peut-être ça réveillerait les troupes un peu, puis ça amènerait de l'amélioration. Fait que si on fait, du coup, ils ont privatisé une bonne partie de leur réseau de santé. Donc, ils ont vendu quelques hôpitaux, quelques grosses cliniques. En passant, l'hôpital de Stockholm, là, le Saint-Georges de Stockholm, on parle d'ailleurs encore aujourd'hui de l'exemple de Stockholm, les gens pourraient aller voir sur Google. C'est l'hôpital le plus performant de Suède actuellement, encore aujourd'hui. Alors, ils ont fait, en une année, en 92, une privatisation partielle de leurs soins de santé. Ils ont vendu pour des milliards de dollars certains hôpitaux, certaines infrastructures publiques. Ils ont dit aux gens maintenant, vous allez tant que vous voulez dans le public ou dans le privé, mais par contre, les systèmes vont être, les hôpitaux et les cliniques vont être remboursés, qu'elles soient publiques ou privées, par un système de pointage. Donc, ils ont coté l'équivalent d'à peu près 1000 actes médicaux et chirurgicaux. Ils ont dit, bon, la chirurgie de la hanche, ça donne tant. Que tu as face au privé, que tu as face au public, ça donne un budget à l'hôpital de tant.
Exact.
Et là, ils ont dit,
Comme on fonctionne avec les dentistes puis pour les enfants au Québec, là.
Exactement. Alors, ils ont dit, vous voulez. Et là, naturellement, le privé s'est réveillé de bonne heure et on dit, nous autres, on veut du personnel de qualité. On n'a pas regardé les règles syndicales. On a dit, toi, t'es compétent, tu veux avancer, tu veux donner de la qualité de service à notre clientèle. Viens-t'en chez nous, on va te donner un meilleur salaire. Donc, les salaires ont augmenté pour les jeunes à la santé qui étaient performants. Les cliniques et les hôpitaux privés ont recruté plus de clientèle et plus rapidement. Ont dépassé de loin les hôpitaux publics en termes d'efficacité.
Mais est-ce que les hôpitaux publics, avec cette pression-là du privé, ont augmenté leur qualité puis leur production avec le temps?
Ils étaient endormis, eux autres, depuis des années. Donc, ça a été long avant de
pas de compétition.
Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un gros bolus de clientèle qui s'est en allé du côté privé parce que les sondages le démontraient clairement. Le taux de satisfaction des gens dans les cliniques et les hôpitaux privés en Suède était supérieur et de loin à ce qui se faisait dans le public. Alors, les gens du privé ont accueilli plus de clientèle, donc ont eu plus de budget. Et ceux qui étaient moins performants ont fermé. Ceux qui étaient plus performants ont gagné des parts de marché. En l'espace d'un an, on a diminué de 22 % l'attente. En un an, sans aucun investissement neuf. Et on a diminué de 10 à 40 le coût des procédures médicales et chirurgicales. C'est pas gagnant, ça?
C'est gagnant all the way. Mais non, je disais ça. L'exemple de la Suède qu'on donne toujours pour d'autres domaines, là, on le voit dans la santé, mais parce qu'il y a un mix, faut pas en parler, puis faut aussi... Je sais pas pourquoi. On a des laboratoires ailleurs qui nous montrent que ça fonctionne et on veut pas le faire.
Il reste trois pays sur la planète où tu as des monopoles étatiques en santé.
Cuba.
Le Canada, Cuba, Corée du Nord. Les deux autres, c'est communiste.
Oui.
C'est pas reluisant pour le Québec, pour le Canada.
C'est
hein?
pas fort fort. Ben, c'est la même chose que je lis pour le Danemark. Ce que tu viens de lire là, là. Mais là maintenant, le Danemark, Marc, c'est le système de santé au Danemark, ça fait la fierté des citoyens. Il n'y a pas d'attente.
Exactement. Va en Suède, va en, tous les pays, là, social-démocrates d'Europe, le nord de l'Europe, même en France. En France, là, à l'intérieur de 24 heures, t'es capable d'avoir un rendez-vous. Même les médecins se déplacent à domicile. Ils ont des remboursements par l'État des frais que perçoit le médecin. Et ça coûte trois fois rien. Là. Un médecin qui vient à domicile, je pense que c'est 40 ou 50 euros. Et t'attends pas. Alors, les gens sont capables de se faire soigner rapidement, sont capables de faire de la prévention. Donc, l'impact aussi au niveau des coûts sociaux. Chez nous, on n'en fait pas de prévention. Les gens disent, ça va bien, ça va bien. T'sais, quand tu sais que ça prend 6 mois voir ton médecin de famille, tu y vas pas le voir.
Non.
Mais la journée que tu y vas, il est trop tard ou t'en as plus que...
Mais ça va coûter cher, en tout cas.
Exactement.
Les pays dont tu nous as parlé là, c'est des pays d'extrême droite où on a remplacé la carte de
l'assurance
maladie par la carte de crédit.
Exactement.
Regarde, je vais vous donner un exemple du Danemark. Ça ressemble un peu au Québec. 5,6 millions de personnes au Danemark contre 7,9 au Québec. Le budget, où il n'y a pas d'attente en passant, il y a un mélange du privé et du public, donc il n'y a pas d'attente, tu vois, dans un système ou l'autre. Le budget total de la santé est de 20 milliards de dollars canadiens contre 28,1. Donc, si on fait une règle de 3, ça se ressemble pas mal.
Oui.
Mais sauf que leur système roule.
Exact.
Non, il coûte pas plus cher, comme tu disais. Il coûte pas plus cher, ça marche,
coûte
ça
pas
roule.
Moins cher non plus.
Il coûte pas moins cher, mais ça roule.
Ça roule.
Les gens sont soignés. C'est ça le but?
Il n'y a pas de plan à long terme avec des objectifs préventifs au niveau de la santé. Au Québec, on réagit, on n'agit pas, on prévient pas. Quand le problème arrive, on dit, ben là, on va faire des cliniques. Bon, l'année passée, ça me faisait rire, des cliniques de grippe. Bon. Il y a eu une explosion de grippe, tout le monde s'énervait, il y avait des délais d'attente partout dans les urgences. Et là, je voyais le ministre de la Santé qui était tout content de nous annoncer qu'il était pour ouvrir des cliniques de grippe. Mais ça, des cliniques de grippe, là, ça s'improvise pas. Ça se prévoit à l'avance. Parce qu'on le sait quand la grippe va arriver. On le sait quand la période d'éclosion va arriver. Et on peut prévoir ça. Et on peut déjà mettre en place des effectifs. Alors nous, au Québec, si on attend que le feu soit pris, on sort notre petit instincteur, là, puis on n'a pas de face, on n'a pas de vision.
Non.
On prévoit pas.
On n'a rien. Le gouvernement danois a instauré une loi. C'est une garantie de traitement en un mois pour tous les citoyens.
Grande-Bretagne fait la même chose en passant. Hein?
Si vous ne pouvez pas vous faire soigner en dedans d'un mois, vous avez le droit d'être dans une clinique privée payée par l'État, soit dans le pays, dans un autre pays.
Exact.
Peu importe. Vous trouvez un moyen de vous faire soigner, on paie la facture.
Écoute, trouve-moi une raison. Moi, j'ai des gens, je connais, qui sont snowbirds. Là. Les gens vont au Mexique, vont en Floride l'hiver. Ils ont des polices d'assurance privées, OK? Au cas où ils tomberaient malades. C'est des gens dans la soixantaine, souvent. Ces gens-là tombent malades au Mexique, tombent malades en Floride. Pour quelques milliers de dollars par année, en fait, ils partent 6 mois normalement, ces gens-là ont accès à tout là-bas. Là. Les hôpitaux les plus luxueux, les soins de santé les plus avancés. Puis je peux te dire qu'au Mexique, là, les gens pensent que c'est en retard. Là. Oubliez ça, là, le Mexique, c'est des hôpitaux ultra-modernes. Là. Et t'attends pas, puis t'es reçu là comme un roi. Là. Alors, les gens qui sont des snowbirds, pour quelques milliers de dollars par année, peuvent se faire soigner comme des rois.
Quelques milliers de dollars, c'est parce qu'ils sont rendus à 78 ans, 79 ans, 72.
Ils ont des petits problèmes de santé.
C'est ça.
Mais, écoute, ces gens-là sont reçus comme des rois en vacances dans des pays étrangers comme le Mexique. Et ils ne peuvent pas, paradoxalement, s'assurer pour cette qualité de soins-là chez eux.
Ça n'a pas de sens.
Ça n'a qu'une tête. Moi, je veux dire, puis les gens vont se faire opérer au Mexique, partout, même en Inde.
Ben, je t'ai parlé, moi, de l'aventure que j'ai eue avec les enfants cet été. J'ai été 6 fois voir des médecins pour les enfants parce qu'ils ont été malades. Puis, c'est un service comme le tien, finalement. Là. Mm-hmm. Mais tu sais, le tien, c'est embryonnaire, ça commence. Eux autres, ça a l'air d'être là depuis longtemps.
Exact.
Puis c'est ce que je disais à ma blonde à ce moment-là. J'ai dit, garde, là, c'est ça que Marc fait, c'est exactement ça. Mais eux autres, c'est ça, across the board. Il y en a partout.
Mm-hmm.
T'attends pas. T'as besoin, tu l'as. Puis j'ai eu la facture. J'ai pas trouvé ça indécent, là.
Non, exactement. Puis, moi, je me dis, regarde, on perd beaucoup de gens qui vont se faire opérer à l'extérieur. Le tourisme médical, c'est en pleine explosion. Okay? Il y a plein d'entreprises maintenant qui bookent des voyages.
Ici, ça pourrait être ça, là. Ben, on pourrait être une destination.
Exactement. Moi, je suis justement sur un projet d'envergure à Québec pour éventuellement même qu'il y ait de la chirurgie privée intégrée à ce complexe-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'opérerait pas ces gens-là? Hier, j'ai un patient qui est sorti de mon bureau, OK? Le dernier patient que j'ai vu hier, c'est un monsieur de 564 livres.
Hey, c'est gros, ça.
Bon. On s'entend 564. 564.
564.
Le monsieur, là, écoute, ça fait un an que je le suis. Et on a tout essayé. On a tout essayé. Il fait de l'apnée du sommeil, du diabète, du cholestérol, de l'hypertension. Il y a 40, là. On s'entend? Hey. Mais il est charpenté, le gars, pour porter 1000 livres. Là. Il pognait trois fois large comme les miens. Mais écoute, il est tellement rendu à un stade avancé de son obésité que c'est un cas qu'il faut faire opérer. OK? L'opération, c'est à environ 3 ans d'attente. Mm-hmm. En attendant, ce gars-là, là, il se scrape les artères, il se scrape le cœur, il fait du diabète. Socialement, c'est rentable de faire opérer rapidement un gars comme ça. Alors, je m'informe, j'appelle à Montréal. Comment ça coûte une opération comme ça? Ben, c'est dur d'accès un petit peu, c'est à peu près 25 000 $.
L'affaire Barité, là, le bypass,
exactement, okay. Ou la gastrectomie.
Et c'est ce que Rockland MD permettait de faire?
Eh oui.
Il déchargeait l'hôpital, puis l'hôpital faisait plus de chirurgie bariatrique.
Eh ben, il y avait ça, mais il y avait aussi beaucoup d'orthopédie, chirurgie du sein. Il avait éliminé pratiquement l'attente, eux autres-là, dans plusieurs secteurs à Montréal avec ce système-là. Alors, le monsieur va sortir probablement 20 000 de sa poche pour se faire opérer parce que c'est un homme d'affaires, le gars il est prospère, puis il veut du résultat, puis il veut pas attendre 3 ans, puis c'est normal. Une qualité de vie aussi. Puis c'est rentable. Socialement, si ce gars-là arrête de faire du diabète, l'hypertension, du cholestérol, il risque moins de se péter un infarctus dans le courant des prochaines années. Il va coûter moins cher au système de santé. C'est rentable. Mmh. Alors, pourquoi est-ce que dans d'autres secteurs de chirurgie, exemple, on ne permet pas aux gens d'avoir ces... Tu sais, on a débloqué la hanche, le genou, la cataracte au Québec là, depuis 2005 avec Philippe Houillard. Là. Pourquoi est-ce qu'on débloquerait pas d'autres types de chirurgie?
Tout.
Il est où le problème? Les blocs opératoires ne fonctionnent même pas à 50% au Québec.
Ben oui, on lisait cette semaine là que les spécialistes, les gars disaient, nous là, on a une expertise, mais il faut pratiquer pour le garder.
Exact.
Et là, on pratique 0,7 jours par semaine parce qu'il n'y a pas de personnel puis qu'il n'y a pas de lit pour mettre les gens qu'on opère après qu'ils soient opérés.
Et les hôpitaux terminent dans le déficit, même plus que prévu.
Ouais.
Ça va bien.
Donc, ils n'opèrent pas.
Exact.
Pour les skills, là, c'est dangereux de
pas
opérer.
Les chirurgiens ont les mains attachées. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas opérer autant qu'ils voudraient. Donc, de ce fait-là, les listes d'attente ne se désengorgent pas. Alors, il n'y a même pas 50% du temps opératoire qui est occupé dans nos beaux hôpitaux publics. Pourquoi est-ce qu'on loue pas les salles d'opératoire à du privé pour faire de l'opération privée aux gens qui désirent payer pour avoir leur opération rapidement? Il est où le problème?
Hey, je sais pas. Ils reviennent deux vitesses. Les riches sont soignés, les pauvres.
Ils sont là, les salles. Ils existent. Ils sont fermés. Pourquoi qu'on laisse des salles fermées alors qu'il y a des mois d'attente?
Si tu en opères 10 puis il y en a 200, ça liste. Ça fait 190 au lieu de 200, ça?
Exactement.
Donc, la liste est plus courte.
Et voilà.
C'est
pareil comme chez nous. Écoute, les gens qui viennent chez nous, privés, là, ils vont plus dans les urgences ou à peu près pas, là. C'est ce qu'on retrouve dans les urgences, c'est des cas de bureau qui ont pas de place dans les bureaux de médecins.
C'est quoi, c'est une jambe?
Les gens qui viennent, non, tu sais, des grippes, des sinusites.
Non, c'est ça, mais s'il va, c'est parce que c'est cassé une jambe. Il ira pas empester le système public en ayant ton service.
Exactement. La personne, elle sait qu'elle a un accident dans 24 heures avec le médecin. Alors, quand ça va pas, l'enfant a mal à l'oreille, ben, on tolère jusqu'au lendemain matin, puis on sait qu'on va avoir un rendez-vous la journée même. Donc, les gens viennent nous voir, ils ne vont plus dans les urgences pour ce qui est des cas moins importants, des cas moins graves.
Cas qui fait que ça bouge, puis que ça jambe.
Mais vous demandez pourquoi on ne le fait pas. C'est pour la même raison qu'on chiale énormément contre les riches. Faut que tout le monde soit égal. C'est pas grave si les gens sont plus pauvres après. Faut que tout le monde soit égal.
Oui, ouais, c'est égal mauvais. Mais c'est égal.
Mais c'est pas grave.
Tu sais, tu peux le faire pour les écoles privées. Tu peux envoyer mon enfant à l'école privée, ça coûte 5 000 par
an. On devrait arrêter ça, d'ailleurs.
Par enfant, ben oui, on devrait l'arrêter, c'est sûr. Et pourtant, personne vraiment se plaint de ça, et ça amène des capitaux importants au système d'éducation. Oh, oui.
Mais Régent Parent n'aime pas ça.
Non, c'est ça. Régent Parent du syndicat des profs n'aime pas ça, lui.
Mais on peut le faire pour les dents, hein, parce que 80% de la dentisterie au Québec, c'est privé.
C'est privé.
La physiothérapie.
Les yeux.
La chiropratie. La massothérapie, l'ergothérapie, là, 90% de ça, c'est tout privé. Les orthèses, les systèmes d'orthèse, c'est privé. Les yeux, les corrections de vue au laser, les opticiens, les lunettes, c'est privé. Tout est privé. Les soins de l'apnée du sommeil, tu peux faire tes laboratoires au privé maintenant. Alors qu'on arrête de se mettre la tête dans le sable. Le privé, il est là, puis il va
rester. C'est idéologique seulement?
Oui, je pense qu'il y a un gros problème idéologique au Québec. Il faut le crever, l'abcès, il faut en parler. Il faut faire des débats sur le sujet. Il faut ouvrir les mentalités.
Ben Bernard est d'accord avec toi. Bernard, qui est cardiologue, qu'on salue, il dit, ça fait combien de temps que je vous dis qu'il y a assez d'argent dans le système, que c'est pas là
ça,
le problème?
C'est clair qu'il y a assez d'argent. C'est juste que l'argent est mal investi, est gaspillé. Et puis, elle va pas aux soins directs à la population. Laissez les chirurgiens opérer. Laissez les médecins soigner. Puis, laissez les médecins compléter leur temps opératoire ou leur cédule dans du privé quand le public est pas capable de leur offrir. Comprends-tu?
Yo. C'est la même chose en passant en éducation. Je t'ai déjà donné l'exemple. Tu as parlé du Danemark tout à l'heure. Je vais te donner l'Allemagne. Des professeurs payés plus cher pour plus d'heures de cours, moins d'élèves par classe, plus de jours d'enseignement dans une année. Et pourtant, ça coûte moins cher former un jeune en Allemagne qu'ici au Québec. Et le taux de décrochage le plus bon au monde.
Tu sais, imaginez juste un instant.
Pourquoi on n'importe pas ces belles recettes-là? Tu viens d'en donner une de la Suède, on donne de la Danemark, tu en donnes une en éducation.
On est bouché. C'est bouché. Personne qui a le courage, politiquement, d'amener ces idées-là sur le plancher. Pourtant,
Legault le fait même pas, là, le nouveau Legault.
Il me déçoit énormément à ce niveau-là. Moi, j'invite M. Legault à reviser sa vision en santé. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Lui, il veut abolir les agences de la santé. Ça fait 10 ans qu'on nous le dit. Ils n'ont pas aboli encore. C'était les régies régionales à l'époque.
Ils ont changé de nom.
Ils ont mis ça pour les agences. Ça a coûté une couple de millions, changé à paperasse. C'est encore les mêmes personnes qui travaillent à la régie de la santé.
C'est la même chose.
Ils sont aux agences. Alors, bon, ça c'est bien. Tout le monde le dit depuis 10 ans, mais ils vont-tu le faire? Quand on arrive pour changer quelque chose, fermer des postes, ça sort avec des pancartes dans la rue, c'est normal. Donc ça, c'est un projet qui est pas nouveau. L'autre projet que M. Legault a, c'est de faire des GMF. Bon, groupe de médecine familiale. Il y en a 250 au Québec à l'heure actuelle. Depuis qu'on a commencé ça, aucun accès plus rapide à un médecin de famille. Aucune amélioration au Québec de l'accès à la médecine familiale malgré 250 GMF. Ça va en prendre combien avant qu'on se convainque que ça marche pas?
5 000. Puis ça sera pas réglé.
On est à 200, le mur s'en vient, puis ah ouais, on pèse.
Le budget de la santé est passé en 2000-2001 à 2010-2011, 10 ans pile, de 17 à 28 milliards. Il est passé de 34 des dépenses totales du gouvernement à 42 % en 10 ans. On peut, à ce rythme-là, on tient pas, là.
C'est impossible. Écoute, le break point, le break even, à mon avis, là, c'est en dedans de 5 ans, là. Parce que 2012, les gens l'ont dit, c'est l'année charnière pour l'accentuation de la rapidité du vieillissement de la population. Là, on va avoir des gens des 65 ans et plus en quantité tellement importante que ça va demander des soins, ça va demander une augmentation de l'offre de soins, alors qu'actuellement, la machine est à côté on peut pas faire plus avec ce qu'on fait là. La façon avec laquelle on travaille, on ne peut pas donner plus de soins actuellement. On le voit, ils ont presque doublé le budget de la santé. Et en 10 ans, les délais d'attente des urgences sont passés de 13 à 18 heures et quelques.
Exact.
Alors, il est où le résultat là-dedans? Là? Il n'y en a pas de résultat. Alors, on peut-tu se remettre en question?
Et nous, en tant que contribuables, on est tannés, là. Tu sais, moi, je reçois j'ai des pirates un peu partout, qui sont aux États-Unis un peu partout. Les gars, j'en ai encore des exemples d'hier. Je salue les gens qui m'envoient. Ils m'envoient tout. Ils m'envoient comment ça leur coûte d'assurance, comment ils payent pour la famille, qu'est-ce que ça prend sur la paye, combien ils payent d'impôts, tout. Là, j'ai des gars qui m'ont envoyé ça de tout partout. Merci de le faire. Et nous autres, ici, en tant que contribuables, là, on a un système où ce que total, là, on paye 40-45% d'impôts. Puis après ça, on a des taxes de vente les plus élevées. Si on compare aux États que les gars m'ont parlé, c'est de 15 à 6%, donc c'est 9% de différence. On paye le gaz le plus cher en Amérique, on paye le vin le plus cher en Amérique, on paye tout le plus cher, le lait, un paquet d'affaires. Donc, on s'est donné un modèle. Donc, si on paye le gros prix, déjà qu'on n'a pas des gros salaires comparativement aux autres, si on paye le gros prix, on espère au moins en avoir pour notre argent.
Au moins, si c'était pas pire.
C'était bien. On dirait, ben écoute, au moins ça va bien. Mais ça va même pas bien.
Non, exactement. Il y a des secteurs, par contre, hein, où ça peut aller, ça va bien. Bon, exemple, les programmes de suivi maladie du sein, les mammographies, tout ça, c'est une des rares affaires qui va très bien au Québec. Donc, il y a des endroits où ça va bien. Quand tu es très malade, là, Jeff, t'attends pas. Tu fais une crise cardiaque, tu rentres, t'es soigné.
Si tu rentres en ambulance, ça va bien.
Exactement. Entre le début de ton diabète puis ton infarctus, il va avoir 15 à 20 ans qui va s'écouler assez souvent. Alors, entre les deux, il est là le problème. Il est pas quand tu fais ton infarctus, quand tu es rendu avec ton cancer, quand tu es rendu au bout de la, au bout du rouleau, là, les gens vont te recevoir. Là, tu vas avoir des très, très bons soins. Mais est-ce qu'on peut le prévenir, cet événement-là, ou est-ce qu'on peut le retarder? Et c'est puis, ça, la question.
Puis même qu'il n'arrive pas.
Ben oui, exactement.
C'est ça, le but, là. Si on ne veut pas avoir la grosse dépense, c'est quand ça arrive. Mm-hmm. Es-tu capable, dans certains cas, d'éviter la grosse dépense?
Ben écoute, 1 $ en prévention, d'après des études sérieuses, économise au terme 10 $ au système de santé. Actuellement, on met 0.
Zéro. Ben écoute, on est mieux payé le 10.
Le petit bonhomme bleu, là, je ne sais pas trop, là.
Oui.
C'est ça, de la prévention au Québec.
Petit bonhomme bleu pour l'exercice, là.
C'est ça.
C'est un peu vrai, ça. Mm. Là, ce matin, Marc, d'abord, bienvenue. J'ai rencontré en fin de semaine le frère de ton futur partenaire dans ta clinique de Chicoutimi.
Ah oui.
Que tu connais très bien dans le milieu pharmaceutique que je salue, Raymond.
Oui.
Ce matin, on parle, Marc, de dépression, les différents types, les causes.
Oui.
Puis les traitements, puis tout ce qu'il y a. On entend parler d'antidépresseurs, des pilules. On sait qu'ils s'en donnent beaucoup maintenant.
Oui.
La dépression. Y en a-tu plus qu'il y en avait dans le temps? Est-ce qu'on est maintenant une société qui a plus tendance à faire des dépressions que c'était le cas il y a, mettons, 30 ans, 25 ans? Moi, il me semble que j'étais jeune, des cas de dépression, c'était vraiment, là, on entendait parler que quelqu'un a fait une dépression, là, c'était...
T'étais rendu à être hospitalisé.
Là. Ah oui, quasiment, ouais.
Non, effectivement, écoute, la prévalence a augmenté beaucoup du fait qu'on les dépiste plus qu'avant. Et au Québec, on a le record, probablement d'un point de vue culturel, les gens sont plus ouverts à en parler qu'ailleurs. Il y a des campagnes, d'ailleurs, de sensibilisation pour que la population n'hésite pas à consulter.
Ben, les artistes en parlent partout, ils vont, tout le monde en parle, ils parlent de ça, ils sont dans les revues, ils parlent de ça dans les journaux.
C'est ça.
Pour moi, c'est très personnel, là, mais...
Ben, en fait, ce qui est pas mauvais dans ce processus-là, c'est qu'on encourage les gens à ouvrir la conversation, à en parler. Et c'est pas mal plus fréquent qu'on pense. Écoute, t'as à peu près dans ta vie 16% de chances de faire un épisode dépressif majeur.
Peux-tu faire une dépression pour le savoir?
Ben, il y a beaucoup de gens qui en font qu'ils le savent pas. Ils ont mal partout, ils dorment pas bien, ils ont plus de libido, ils sont pas concentrés au travail. Pour faire la même job, ça lui prend le double du temps. Hein?
Oui.
Je sais pas ce qui se passe, là, mais bon.
Pis ça peut-tu passer seul, sans traitement, puis ça repasse quelque chose?
Oui, mais il y a une grosse chance que si tu en as fait un épisode,
ça va revenir.
Tu en fasses un deuxième. Écoute, il y a 40% des gens qui ont fait un épisode dépressif majeur qui récidivent à l'intérieur de 2 ans.
Oh.
Et ceux qui en ont fait 2 ont 75% de chance de refaire un troisième épisode. Alors, c'est une maladie qui évolue un petit peu comme une poussée, une rémission, et qui, en général, va se répéter au moins 2 à 3 fois dans ta vie, si t'en fais. Il y a beaucoup d'antécédents côté génétique, familial. Donc, si dans vos familles, vous avez des gens, votre mère, votre tante, vos cousines, vos cousins, qui ont déjà fait des épisodes dépressifs ou des problèmes de santé, que ce soit la maladie bipolaire ou autre, ben, il y a plus de chances que vous en fassiez vous-même, ça, c'est certain.
Ça se pointe quand, ça? N'importe quand?
N'importe quand. Il y a des jeunes qui en font. Mais c'est sûr que plus t'es âgé, plus t'as de chances d'en faire. Le 2/3 des dépressions au Québec, j'ai vu les statistiques récemment, c'est des gens de 50 ans et plus.
Ah oui.
Parce que bon, c'est sûr qu'à 50 ans, t'as vécu plus de cochonneries qu'à 20 ans en général. Tu sais? T'as eu plus de ruptures.
C'est l'accumulation.
Exactement. Puis en même temps, ben, t'as plus de chances d'avoir d'autres maladies, donc de la comorbidité. Plus t'as de maladies concomitantes, plus t'as de chances d'avoir un épisode dépressif. Donc, tu fais du diabète, t'as un cancer, t'as fait une crise cardiaque, ben c'est sûr que la prévalence de la dépression chez ces gens-là, elle est plus élevée que dans la population saine.
OK.
Bon, ça va un peu avec l'âge. Mais je te dirais, on en dépiste plus parce qu'on en cherche plus aussi. Mais la vie moderne, écoute, c'est fou, là. Les gens, aujourd'hui, ça vire à 100 000 à l'heure. Les gens, c'est des ruptures, des familles recomposées, des enfants barouettés d'un bord puis de l'autre. Le stress financier très élevé que s'impose les gens. Les gens n'ont pas de salaire, mais ils vont s'acheter des maisons. Maintenant, les maisons coûtent tellement cher que ça occupe plus de la moitié de leur budget, bien souvent. Alors, les pressions
financières
sont très importantes. Moi, ouais. En tout cas, je veux dire, un patient sur 4 que je vois dans mon bureau, c'est soit un trouble anxieux, c'est soit un trouble humain. Il y en a à la tonne. Les gens sont vraiment sur le nerf. Les gens s'accotent, les gens, ça roule à 100 000 à l'heure, ils n'ont pas de marge.
Donc, ce que je te demandais tantôt, c'est relié un peu à notre style de vie et dans le monde dans lequel on vit. Là.
Je crois que oui. Ouais. Je crois que oui.
Moi, Marc, ma dépression...
Toi, c'est un peu, je pense, c'est un peu chronique.
C'est chronique un peu.
Mais il vit une belle dépression, lui, je trouve.
Marc, il appelle ça la...
Il
appelle ça la...
Cutie depression.
Il appelle ça la boîte à fleurs.
OK.
Ouais. Mais, tu sais...
A besoin d'eau.
La dépression, là, c'est pas une vue de l'esprit, c'est une maladie, OK? Puis C'est un déséquilibre de neurotransmetteurs.
Ça, c'est pas une vue de l'esprit, c'est un déséquilibre.
Puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui se mettent la tête dans le sable, ils osent pas en parler parce que souvent ils vont être jugés parce que la performance au travail là, hein, c'est tellement, si t'es pas performant aujourd'hui, ben tu sais, un coup de pied dans le derrière va te reposer chez vous, tu reviendras.
Mais un petit entraînement, là, une journée dehors, dans le grand air, oui, des fois, oui, ça fait du bien. Hein?
Comment je fais pour différencier, Marc, le burn-out de la dépression?
La dépression,
les gens ils mélangent ça des fois.
La dépression, ça arrive d'un ciel bleu. OK? La dépression, ça arrive, là. Ta blonde est belle, t'as de l'argent plein ton compte, tu roules t'as une belle bagnole, tu fais des voyages, t'es beau bonhomme, mais tu t'endures plus, tu
Stéphane
dors plus
Richer
bien.
Qui revient du New Jersey avec la Coupe Stanley puis qui pleure en écoutant.
Tout est beau, là. Mais tout est beau, mais ça arrive.
Exactement. C'est que ça arrive dans un ciel bleu parce qu'il n'y a pas d'élément déclencheur identifiable à l'histoire. Par définition, un épisode dépressif, c'est ça. Et il y a beaucoup d'autres choses que ça qui vont donner des symptômes dépressifs. Les troubles d'adaptation avec humeur dépressive ou avec humeur anxio-dépressive, qu'on voit plus souvent que les dépressions pures. Ça, si ma blonde est partie, mon chien est malade, plus d'argent, faillite, je suis pas beau, ça, c'est un trouble d'adaptation avec humeur dépressive. Ça, on en voit beaucoup. Mais des épisodes dépressifs purs, c'est vraiment dans un ciel bleu. Il y en a aussi qui sont relativement à la luminosité, hein, la dépression saisonnière.
J'en fais une. Si le mois de novembre reste demain, je suis correct.
On est en dépression.
Mais si le mois de novembre, il est mouilleux, puis il est full gris, j'ai pas de jus.
Beaucoup de gens, c'est ça. Hein. Beaucoup de gens.
Oui.
C'est clair. Moi pareil. Écoute, à ce temps-ci de l'année.
Puis quand t'es obligé d'intervenir avec une médication, toi, en tant que médecin, qu'est-ce qu'il te dit, lui, je suis obligé de l'accouder à une médication?
Souvent, c'est quand tu vois qu'il est probable de fonctionner. Tu sais, le gars, il est au travail, mais bon, il...
Il se concentre pas.
Il a de la misère avec son travail, il amène l'ouvrage à la maison pour compléter, il dort pas bien la nuit. Là, tu sens qu'il s'en va dans le mur. Là. Tu sens que si tu lui donnes pas un break, souvent un bon petit congé d'une couple de semaines, ça fait du bien. Mais aussi, dans certains cas, la médication peut devenir nécessaire. Comme les gens disent, on va être pogné avec ça le restant de nos jours. Oubliez ça, les antidépresseurs, ça ne donne aucune dépendance. Il n'y a aucun antidépresseur qui cause de la dépendance. Ça, c'est des mythes, encore une fois. Et ça ne donne pas d'accoutumance, ça ne donne pas de tolérance. Donc, un antidépresseur, tu peux le donner pour une certaine période ou tu peux le donner à long terme, mais c'est pas un médicament qui va donner aucune dépendance.
Qu'est-ce que ça fait, hein?
Ce que ça fait, premièrement, le constat qu'ils ont fait dans les années 60, quand ils ont commencé à faire des études sur la dépression, c'est que au niveau des cerveaux de patients malades, il y avait un déficit au niveau des neurotransmetteurs, principalement de la sérotonine puis de la noradrénaline. Fait que là, ils ont dit, s'il manque de sérotonine, comment est-ce qu'on va faire pour soit qu'on injecte dans le cerveau?
On trouve ça le même, autres, là. Il y a du monde brillant pareil, hein.
Oh, oui. Mais c'est sûr qu'ils ont peut-être fait post-mortem un peu, là,
OK, c'est après.
Si le coco, je lui prends une petite biopsie, tu vas voir ce qui se passe. Mais, ça vient de ce constat-là. Puis ils ont dit, qu'est-ce qu'on ferait bien pour monter ça, ces neurotransmetteurs-là? Fait que là, ils ont parti avec des pilules, au début, beaucoup plus brutes, qui touchaient à peu près n'importe quoi. Puis là, t'avais 25 millions d'effets secondaires. Fait que quand t'étais pour prescrire ça dans le temps, ça fait quasiment que t'as la corde au cou, tu sais, parce que t'avais tellement d'inconvénients à donner ça que
Oui, c'est ça.
Fallait que ça dépasse les avantages. Fallait que les avantages dépassent les inconvénients. Il y en avait tellement qu'on le donnait presque jamais, le traitement. Mais ces médicaments-là, ce qu'ils font essentiellement pour les ISRS, qui sont la classe principalement prescrite pour les troubles d'humeur et les troubles anxieux, les ISRS pour inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Ce que ça fait, ça, c'est que ça bloque la dégradation de ta propre sérotonine.
C'est ça.
Donc, c'est un peu comme si tu fermais le robinet, la tank à l'eau va être un peu plus pleine.
C'est le bouchon dans l'évier.
Exactement. Ouais. C'est qu'au lieu de couler un petit peu, au lieu de couler beaucoup, tu le laisses couler juste un petit peu.
Oui.
Fait que ton évier va se remplir un peu. Fait que c'est un peu le même principe, c'est que la sérotonine redevient...
C'est un barrage.
Plus élevé.
Un barrage.
Ouais.
Tu sais,
c'est
ton eau.
Exactement. Puis c'est pas de la sérotonine qu'on fait dans un labo, qu'on met dans une pilule, qu'on
donne. OK, ça va juste garder celle que
t'as. C'est ta sérotonine à toi.
OK.
Donc, c'est pas quelque chose d'inconnu à ton corps. Et ces médicaments-là, je peux te dire que depuis quelques années, ils ont fait un pas de géant. On est rendu avec des pilules, on va te dire une chose, là, extrêmement performantes, très, très, très spécifiques au niveau de leurs effets et presque dénudées d'effets secondaires. Donc, c'est pour ça qu'on en prescrit beaucoup maintenant. C'est que on en donne parfois, je te dirais, pour ma part, en dehors des indications formelles. Donc, on va, dans certains cas, prescrire un court temps pour dire aux gens, regarde, même si tu réponds pas à 100% aux critères de dépression, peut-être qu'un 6 mois, un 12 mois, vu que ça te fera presque rien.
On te met un piflo.
Tu l'essaieras, puis si ça fait bien, probablement que 6, 12 mois, peut-être un an, deux ans, puis on se reparle, on l'arrêtera en temps et lieu quand le soleil sera venu. Donc, c'est les médicaments qui sont tellement rendus performants et rapides et sélectifs au niveau de leurs effets qu'on a de plus en plus tendance à les prescrire. Avoir de moins en moins de retenue comme c'était le cas il y a 15 ou 20 ans. Parce que la fille à qui tu prescrivais du Paxil, qui prenait 25 livres, tu comprends bien que Ouais. Elle revenait déprimée.
Juste elle arrêtait le Paxil, puis elle voyait le 25 livres. Fait qu'elle avait à nouveau besoin du Paxil.
Ben voilà. Mm-hmm. Puis t'avais aussi l'effet au niveau libido, qui était quand même très important. Mais là, aujourd'hui, il y en a, mais il y a beaucoup moins des gens qui ont une baisse de libido avec leurs antidépresseurs.
Ah, les gars le veulent plus, hein?
Mm-hmm.
Oh.
Donc, c'est
ça qui fait qu'aujourd'hui... Les antidépresseurs, puis pas avoir de quéquettes, c'est plate, là.
Ouh. Exact.
Mais donc, il y en a qui mettaient ça de côté, hein?
Ben oui, beaucoup de gens cessaient leurs antidépresseurs à l'époque. Donc, mais tu sais... Il reste que
mieux malheureux bandé qu'heureux pas bandé.
Exact.
Donc, il y a une marge quand même entre ce médicament-là et l'autre pour celui qui est complètement décaloté, le schizophrène et compagnie. Là.
Ben là, si on parle plus d'antipsychotiques dans ces cas-là, là,
ça, c'est pas
du risperdal, du Zyprexa, de l'aldol, c'est des médicaments beaucoup plus lourds qui n'ont pas du tout la même action. Puis, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont pris à tort pour des dépressifs. Qui sont des bipolaires, donc des maniaco-dépressifs, qui sont dans une phase dépressive. Et ces gens-là, on va leur donner des antidépresseurs. Puis d'un coup, deux semaines après, le gars s'achète 15 tracteurs. Puis, il se boucle pour un tour sur la lune en navette spatiale. Tu sais.
Il se boucle pour un tour en fait. Un autre château.
Il est décollé.
Là, tu sais.
Dans ce temps-là, tu changes de pilule.
Il est high au bout.
Puis, qu'est-ce que t'as fait cette semaine? J'ai acheté 15 tracteurs. Des John Deere.
150 000 chaque.
150 000, OK.
Une vanne de PL.
C'est ça,
il est en feu.
Non,
le gars est en feu.
Restez vigilant. Il y a quand même 10 à 20 % je te dirais, des cas de dépression qui sont des maladies bipolaires. Donc, ça ne se traite pas du tout de la même façon.
Manière. Là.
Et l'autre chose qui est
importante
aussi...
OK, bipolaire et dépressif.
Ben, c'est pas pareil pour tout.
C'est pas dans le même quartier, ça.
Voilà, c'est parce que si tu mets des antidépresseurs, comme je te dis, ils vont se mettre à gambler.
Ça va aller très, très bien.
Ils vont acheter des blocs d'appartements.
OK.
Non, ça va brosser.
Ça va.
On se partir des cliniques.
Parce que la bipolarité, une dépression, ça peut... une dépression, ça peut arriver de même, puis repartir. Une bipolarité, c'est un état. T'es bipolaire.
Ben, c'est que c'est des variations extrêmes de l'humeur. Les gens vont passer de phases dépressives, plus ou moins intenses, à des phases d'hypomanie ou de manie.
Ben, moi, je suis plus bipolaire. Là, moi.
Tu dors plus, hypersexualité. Tu dis, écoute, il est-tu sur la coke, lui-là? Là, mais non, c'est pas ça. C'est parce qu'il vire à 100 000 à l'heure. Vraiment, lui,
mais il va retomber à 20. Hein?
Il retombe à 20 à un moment donné, mais tu sais juste pas quand. Il y a des gens qui ont des cycles rapides. Il y a des gens qui ont des cycles beaucoup plus lents. Même que tu peux faire un épisode dépressif puis un épisode hypomaniaque 2 ans plus tard.
C'est
pas toujours facile à mettre le doigt sur ces maladies-là.
Oui, c'est pas
le temps, c'est la réponse au traitement aussi qui nous dit à un moment donné, ben là, tu sais...
Tripolaire?
Il y a décollé fort là, sur les antidépresseurs.
Quadripolaire?
Quadripolaire, non?
Négatif,
ça n'existe pas.
Mais l'autre chose, il ne faut pas oublier, là, personnes âgées, puis il y en a beaucoup plus dans notre société qu'avant, ces gens-là ne se plaindront pas souvent de problèmes d'humeur, baisse de libido, perte de concentration.
Ils pensent que c'est vieillir.
Ils vont plutôt dire j'ai mal partout. Ils ont leur chronique. Mmh. Là, ils socialisent moins, ils s'isolent un peu, mais c'est pas facile à diagnostiquer une dépression chez un patient âgé. Très souvent, c'est des maux physiques dont ils vont se plaindre.
Ouais.
Alors, il faut faire attention. C'est pas la même manifestation selon l'âge de la clientèle. Il faut rester vigilant à ce niveau-là.
Quelqu'un qui est pas en dépression, il prend des pilules pour la dépression, ça fait quoi?
Quel est l'effet?
Ben, écoute, ça fera rien, tout simplement.
Rien?
Plus d'effets négatifs, tu vois, les petits effets secondaires de la pilule, puis tu n'auras pas d'effet.
Il n'y a pas d'effet positif?
Pouf, non.
Tu n'as pas de fuite dans ton évier, puis tu prends un médicament pour la fuite.
Ça marche trop beau.
C'est ça.
C'est tout.
OK. Si tu prends des médicaments, bipolarité, tu n'es pas bipolaire?
Ben honnêtement, j'ai jamais essayé, mais...
Ça va.
Non, mais souvent, je te dirais, avant de commencer un traitement pour une maladie bipolaire...
Donc, ceux qui en prennent, c'est parce qu'il faut qu'ils en prennent. C'est ça que je veux dire.
Oui, ben, je te dirais, c'est souvent...
On donne pas des pilules de même pour du monde là qui ont rien, là.
Non, puis je te dirais que souvent, c'est pas l'omnipraticien qui va commencer le traitement pour le bipolaire.
Là, t'es en psychiatrie.
Lithium, là, t'as vu le psychiatre, puis t'as fait deux, trois... T'es allé à l'hôpital 2-3 fois, puis t'as vu ton médecin. Puis là, ton médecin, c'est pas tout ce qui se passe. Où il suspecte maladie bipolaire, il va dire, ben là, je vais demander au psychiatre ce qu'il en pense, puis est-ce qu'on devrait te donner un traitement à long terme de lithium? Puis là, c'est souvent le psychiatre qui va trancher à ce niveau-là.
Lithium?
Ouais.
Ça fait peur, ça?
Stabilisateur de l'humeur.
Mais c'est pas pire que ça.
Ça fait job.
Ça fait
job. Faut pas prendre un coup avec ça, là.
Oh!
Non?
Non. Bref, moi, j'en connais.
Tu mélanges pas l'alcool au lithium?
Moi aussi. Les gens même près de chez nous, là, près de moi. Puis,
moi, j'en connais aussi.
Prennent un peu trop de boisson, des fois, puis hop, là, et ça décompense. Faut pas exagérer, puis même
OK, ça fait l'inverse.
Exact.
Ça écrase.
Ben, c'est parce que ça joue sur le métabolisme du médicament. Puis là, ben, tu te ramasses avec un taux de médicament qui est trop élevé ou trop bas. Puis là, ben, tu te ramasses à l'hôpital. Je sais pas trop pourquoi.
Un bon petit jogging.
On est mieux rien à voir, là.
Ouais.
Écoute, l'activité physique.
Un peu d'entraînement, t'ajustes ta nutrition, tu fais un peu de.
Les oméga 3, pour la santé, moi, bon sommeil,
c'est mon médecin de famille que j'avais dans le temps, qui nous a mis dehors parce que. C'était un gars qui met des enfants au monde, là. Donc, une fois que les enfants sont au monde, OK, beaucoup bien. Mais il m'avait rencontré dans la passe il y a 6 ans quand j'étais dans les médias, puis j'avais l'air d'un tueur d'enfants. Mm-hmm. Puis il m'avait dit, Jeff, tu joues au tough et tout, puis non, faut te donner quoi, là? Faut que tu te remontes. Et c'est sûr que t'es débalancé, là. Il n'y a pas personne qui peut vivre ce que tu as eu là, puis être correct, là.
Sans effet.
Laisse-moi te donner quelque chose. Moi, je. Je suis égoïste. Pas égoïste, je veux dire,
orgueil,
l'ego.
Oui.
C'était le nom dessus. Tu fais là, pas moins ça, moi.
S'entraîner.
On va courir, on va walker, on va faire mes affaires, puis ça va passer, là. Puis, mais au moins, il dit Oméga 3.
Oui. Très bon, Oméga.
Très bon?
Oui, très bon.
Vrai?
Oh, c'est excellent. Ça, c'est démontré par des études.
Tu as besoin de prendre des pilules d'Oméga 3 ou juste beaucoup de saumon, beaucoup de poisson, des patentes de même, d'alimentation?
D'un côté comme de l'autre, ça va avoir un effet. Très positif. Concentration, attention, mémoire, morale, énergie. C'est très bon, les oméga 3. Surtout à ce temps-ci de l'année où est-ce qu'on manque un peu de soleil, là.
Où est-ce que, dans quoi on en trouve? Beaucoup?
Ben, les poissons, comme tu dis, il y a beaucoup de suppléments faciles d'accès, sur dans les pharmacies, même en vente libre, d'autres aliments. Moi, je trouve, c'est souvent les poissons, je te dirais.
Saumon?
Saumon, principalement, la truite. Les poissons, chair rouge.
Truite, salmonée, puis patente de même, là.
Ouais, exactement. Mais les gens font Google Oméga 3, regarde, ils vont trouver...
Combien de fois je mange par semaine? Mettons, je mange 3/4 de livre dans un repas. Tu manges 2 repas de saumon?
Bon, je te dirais que si tu manges un pavé de saumon une fois par jour, tu vas avoir ta source d'Oméga 3, là.
Une fois par jour?
Ah oui. En masse.
Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger pour le mercure et pas tant de même, là, là-dedans.
Pas avec le saumon.
Pas avec le saumon. Ben, souvent, c'est des saumons de culture,
moi. C'est du saumon d'élevage. En général, c'est pas du saumon qu'on pêche dans l'Atlantique.
Okay, ouais. Non, c'est ça.
Donc,
mais ils disent que oui.
Tu pourrais prendre du saumon bio aussi.
Et voilà.
Ouais.
Mais juste pour revenir à l'activité physique, là, oui. Ça aussi, c'est un médicament qui est puissant. Là.
Très puissant.
Moi, je pense que oui.
Les études l'ont démontré.
Le sexe?
Le sexe aussi.
Le bonheur.
Tu sais, quand t'es déprimé, ta libido est moins bonne.
Ouais. Ouais.
Donc, c'est dur de décoller là-dessus.
Ouais, c'est négatif. Ça.
Fait qu'achète-toi des running, va courir, puis après ça, tu vois le goût.
Ouais.
Mais c'est vrai que l'activité physique, sérieusement, d'après les études, c'est clairement efficace.
Tu marches avant.
Fast
pas après.
Joke.
Ouais, c'est ça. Tu marches.
Tu fais 2-3 marches, puis après ça, ben...
Mais avant, pas après.
Mais là, le nombre de choses qu'on voit, les chiffres, là, les millions de
6 millions d'ordonnances.
Je sais pas combien.
Oui.
Une ordonnance, ça équivaut quoi? Ça équivaut au nombre de semaines, c'est quoi?
Ben, c'est quand tu prescris quelque chose. Donc, si habituellement... tu prescris 2 mois, ben, c'est une ordonnance. Mais tu peux faire une ordonnance de 6 mois, tu peux en faire une de 12 mois, tu peux aller jusqu'à 18 mois maintenant.
Mais les chiffres qu'on voit, c'est qu'il y en a beaucoup de monde qui en prennent pareil.
Exact.
C'est une belle business, là.
Ben, c'est sûr qu'avoir des parts dans les compagnies de pilules de ce temps-ci, ça doit pas être mauvais, là. Il y a des très bons antidépresseurs maintenant qui sont sur le marché. Qui, en passant, j'ai pas de part là-dedans, mais moi, je veux dire, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le Cipralex. La nouvelle molécule fait 2-3 ans qu'il est sur le marché.
De qui? Qui fait ça?
C'est une compagnie européenne qui faisait avant le Celexa et qui a développé cette pilule-là qui est encore plus efficace au niveau sérotonine, beaucoup moins d'effets secondaires, très rapide d'action. Moi, j'en prescris régulièrement. Et ceux qui m'écoutent, qui ont jamais... Mettons, les médecins qui n'ont pas essayé cette molécule-là dans les troubles anxieux particulièrement, très rapide d'action, donc Cipralex. On a aussi le Cymbalta, qui est un peu dans la
même... T'as parlé d'anxiété, là. C'est-tu dans la même famille, ça?
Ben écoute, trouble anxieux et trouble de l'humeur, c'est la même...
C'est la même chose, là.
Et le dénominateur commun est le même. Donc, c'est un manque de sérotonine très souvent au niveau du cerveau. Dans certains cas, la noradrénaline est impliquée aussi. Donc, t'as des médicaments qui vont aussi toucher l'effet noradrénergique, mais la principale molécule qu'on prescrit dans ces deux catégories de problèmes-là, ce sont les ISRS, donc les médicaments qui touchent la sérotonine. Mais dans les troubles anxieux, tu as plusieurs types. Tu as le trouble anxieux généralisé, tu as le trouble panique, les gens qui font des attaques paniques, là, qui serrement de poitrine, palpitations, les mains qui tendent.
À manque d'un avion, partir en vacances, débarque de l'avion, pas capable d'y aller.
Mmh. Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui en font des troubles de panique, puis c'est sous-diagnostiqué dans la population. Puis c'est des gens souvent qui vont être investigués, tapis roulant, cardiologue, échocardiaque, par ouais par là, puis on trouve rien. Alors c'est souvent des gens qui peuvent bénéficier d'un traitement médicamenteux, puis c'est une maladie qui se traite excessivement bien. Mais si on les soigne pas, c'est des gens dans certains cas qui vont éviter des situations, qui vont éviter de sortir carrément de leur maison.
Ah, carrément.
Il y a des gens, moi, que. Puis il y a souvent un lien situationnel avec les troubles paniques. Hein. Les gens vont dire, ben moi, quand je passe sur le pont, je file pas. Bon, ben là, dans ce temps-là, quoi, ils vont prendre le bateau de la traverse. T'sais? Moi, j'en connais des gens là, qui font ça. Là. Prendre l'ascenseur. Des situations publiques, quand il y a beaucoup de gens, ils sont mal dans une foule.
Agoraphobie.
Agoraphobie. Ouais. Les gens sont mal dans une foule ou ils sont mal dans un petit endroit, claustrophobie. Il y a souvent des éléments de ces symptômes-là qui cohabitent là, dans les troubles anxieux. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont obsessifs, compulsifs là-dedans. Donc, les gens qui ont un peu comme beaucoup de médecins sont, on est tous un peu obsessifs-compulsifs, donc on veut réussir bien, donc on étudie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'est un trouble obsessif-compulsif. Il y en a énormément aussi dans les troubles anxieux. Donc ça représente là en gros les grandes catégories.
Puis, ça touche beaucoup de monde, là. Ça touche pas juste le monde... on serait surpris, ce que je veux dire par là, oui. Pour qui ça peut être quelque chose qui les a frappé, là. T'sais, des fois, des gens qu'on pense à succès, des gens qu'on pense que la vie est parfaite, ça peut arriver, là.
Oh oui, puis ça épargne pas les couches, les hautes couches sociales.
Non, c'est ça, là. C'est pas parce que t'es riche, t'as une grosse maison, t'as un char sport de 100 000.
Ben, Pierre Pelladeau, c'était un bipolaire. Pelladeau, c'était un...
Le père. Reconnu.
Il était bipolaire.
Et traité,
je crois.
Oui.
Donc, il y a beaucoup de gens d'affaires qui sont bipolaires. Il y en a, là. Tu sais, et c'est pas des gens, souvent, qui ont le temps de s'arrêter à ça. Puis qui ont le temps, souvent, c'est quand ils vont faire vraiment un épisode deep, là, qu'on va les voir à l'hôpital. Parce que c'est pas des gens qui vont prendre le temps de consulter, là. Tu sais,
non.
Ils sont trop occupés. Mais on en voit beaucoup dans le monde des affaires.
Ça touche beaucoup. Ben oui, parce qu'ils sont souvent aïe.
Exact.
Le stress, le patent, le ciblement.
Mais tu sais, quand t'es en manie, t'as pas peur de rien. Tu sais, fait que là, c'est là que les gars achètent 4 blocs appartements, 3 compagnies, 2 jets. Tu comprends? Mais des fois, ça marche. Des fois, ça passe. Ils ont de la... Tu sais, ils sont... sont
comme des fois, ça marche pas.
Exact.
Moi, je pense que je fais de la haute pression en ce moment.
Dis-les comment tu fais, toi, 130 quelque chose. Correct, 130.
Non, non.
130, c'est correct.
Ouais, non. Parce que ça, des fois, je fais 135.
135.
Des fois, je suis limite un peu. Mais là, parce que j'ai de la chaleur dans le visage à peu près 2 semaines. J'ai une petite chaleur. Mais tu sais, je combats une petite patente, là. Genre de petit, je sais pas si c'est une sinusite.
C'est pas mal qui commence.
Ouais, ça fait 2 semaines, là, que tu sais, je suis pas,
petit mal de gorge.
Je suis pas top shape, là. Tu sais, j'ai pas super énergie. J'ai une petite chaleur, là, de même, là. Tu sais, juste cette, là. Là, je pensais que c'était de la pression l'autre fois, mais là, je pense que c'est, je combats vraiment un petit quelque chose.
Mais tu m'ouvres la porte, là, parce que, tu sais, c'est bien bon, on parle de dépression, là, mais il y a des gens qui vont venir vous voir dans le bureau de médecin, qui ont l'air d'une dépression, mais qu'est-ce que ça peut être une hypothyroïdie, ça peut être un problème médical. Donc, avant de prendre un traitement pour 12 mois d'antidépresseur, ben au moins, tu sais, faites prendre une petite prise de sang, voir si vous faites pas d'anémie.
Il y a toutes sortes d'affaires qui traînent.
Si vous faites pas d'hypothyroïdie, si vous faites pas un début de diabète, tu sais, parce que faut au moins rule out les principales causes qui peuvent mimer une dépression avant de traiter comme une dépression.
Oui.
Il y en sait des affaires, Marc.
Ah, il est bon.
Où c'était mis tes mots puis tout, là, pour...
Quelqu'un que j'ai vu en fin de semaine me dit, hey, Marc, il dit... Marc, hein, quand il jase, il... Marc, il jase, hein? Il aime ça, jaser, hein? Marc, quand il donne... Tu tires ça comme un morceau de pain à un pigeon, aussi. C'est parti.
Hey, en passant, en fin de semaine, les gars, je me suis rendu compte à quel point c'est puissant Radio Pirate. J'ai été reconnu vocalement. J'étais chez mon ami André Bouchard, géant motorisé à Saint-Amboise.
Oui.
Puis il y avait un monsieur puis sa femme qui venait chercher un bateau qu'il avait acheté parce que son concessionnaire bateau, eux autres, dans le coin de Cabaneau.
OK.
Puis là, je parlais avec un monsieur du géant motorisé, André Castonguay, qui était là. Puis là, la madame, elle me regardait, tu vois. Puis je dis, comment ça fait qu'elle me regarde la main? Elle dit, vous êtes pas le docteur Lacroix? Je dis, oui.
Le beau docteur Lacroix.
De Radio Pirate. Nous autres, on est des pirates, on vous écoute régulièrement.
Elle t'a reconnu par la voix.
Ouais.
Ça, avant que je sois connu, ça m'arrivait souvent.
Ouais.
Parce que moi, dans le temps de choix, je me faisais un devoir de pas mettre ma face. Je voulais pas que les gens m'écoutent pour ce que j'ai l'air.
Parce que t'étais beau.
C'est jamais une des autres raisons parce que je suis pas beau. Mais d'autres affaires, c'est que je voulais pas être public, moi. Ça me tente pas, c'est pas... j'étais un gars gêné, puis j'aime pas ça, cette affaire-là. Puis le monde, j'arrivais à des places. Écoute, ma face était nulle part. Le monde, donc.
J'ai un café.
Jeff. Comment ça, tu me connais? La voix, hein? Donc, les voix.
C'est impressionnant.
C'est impressionnant comment, au nombre de monde qu'il y a, que les thèmes de voix soient si définis à un point qu'on est capable de reconnaître du monde juste avec la voix.
Oui.
C'est incroyable.
Ah, j'ai été impressionné. Je t'ai dit, ça m'a jeté à terre. Puis on était à Saguenay, là.
Ah oui.
Des gens de Cabaneau qui étaient rendus à Saguenay, qui reconnaissaient le doc de Québec, qui faisait, tu sais, c'est spécial.
Moi, j'ai un ami de chambre, il s'appelait Gilles Lavoie, puis tout le monde le reconnaissait partout.
Ouais. Lui, il avait une voix, hein. Gilles Lavoie. C'est pas drôle, celle-là, hein. Yves. On va voir Marc là, pour un petit, une prescription. Là.
Prescription.
Une prescription. Un petit mois de Paxil.
Paxil!
Un petit mois de Paxil.
Mon autre chum. Tirer une petite visite, les boys?
Ah ben oui!
Hey, ça marche à toutes les fois. Ouais. Que
tabarouette, ça allez, on fait un check-up ce coup-là.
Un check-up
d'une demi-heure.
Oh!
OK.
À notre clinique de, tiens, de, soit de Saint-Jean-Chrysostome ou de Cap-Rouge.
OK.
C'est bon.
Alors, un petit check-up.
Live à radiopirate.com, live à radiopirate.com pour voir. On valeur, vous laisse toujours un 24 heures pour les gens qui écoutent en podcast puis en différé, là.
Valeur de 200$. Donc, les gens.
C'est bon, ça.
Qui n'ont pas vu le doc depuis quelque temps, là.
Hey, ça, c'est bon.
Appelez-nous, puis.
Excuse-moi,
quelle
là.
Quelle question on pose, Jeff?
La
première catégorie de médication qu'on donne dans les troubles de l'humeur, troubles anxieux?
Ou... Oui. Tu l'as parlé, tu viens d'en parler là.
Oui, bon. Oui, ouais, on vient d'en parler.
C'est le produit que tu aimes.
Soit la catégorie ou soit le médicament qui, disons,
que tu viens de parler.
Que tu aimes bien.
Oui,
disons.
Ouais. Ouais, le produit que tu. Ouh, écoute, oui, ils peuvent aller le chercher, là, les gens, le podcast, puis ça va leur faire un petit peu de travail. Parfait. Donc, allez chercher ça, soit le traitement ou encore le produit en tant que tel que Marc donne pour les gens qui ont besoin.
La catégorie de médication antidépresseur qu'on donne le plus souvent ou le nom du médicament nouveau
que tu viens de donner.
Que j'aime bien donner.
Marc, numéro de téléphone, te rejoins?
855-841-1911. Ça, c'est de partout au Québec sans frais. Puis vous allez sur le web au cliniquemédicallacroix.com. Et ben, comme je vous dis, on ouvre au Saguenay là, l'été prochain. On est clinique dans la région de Montréal, l'Estrie, 3 points de service à Québec. Ça va bien.
Super, Marc. Merci. Toujours un plaisir de te recevoir. On te reparle la semaine prochaine. Je serai à l'extérieur, par exemple, mais tu vas être là en studio. Moi, je vais être juste un peu plus loin. Mais on va se parler.